Et nous recevons la maire de Paris, Anne Hidalgo, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Respirer aux éditions de l'Observatoire. Beaucoup de sujets vous concernent dans l'actualité ce matin. L'ouverture du salon de l'auto avec l'avenir possible à la voiture électrique, c'est en tout cas le titre du magazine. Et les échos également dans le Financial Times, le choix de Paris après le Brexit. Et puis cette information qui vient de tomber dans la matinale du Monde avec, selon les informations du Monde, un recours qui devrait être déposé le 2 octobre prochain devant le Conseil d'État pour obliger le gouvernement à respecter les normes européennes en matière de pollution de l'air. Une soixantaine donc d'associations écologistes ainsi que plusieurs médecins sont regroupés pour une action inédite. Ils voudraient donc déposer demain une requête devant ce Conseil d'État qui viserait à obtenir l'exécution de la décision du 12 juillet 2017 avec une demande d'astreinte de 100 000 euros par jour si la France ne respecte pas ses obligations. Avez-vous l'impression de voir en quelque sorte corroborer votre politique, celle que vous défendez, d'en respirer, Anne Hidalgo ?
Sur cette décision-là, je pense que c'est une très bonne chose que les associations, les ONG, les citoyens saisissent la justice pour faire appliquer des règles qui sont des règles visant à ce qu'on ne soit pas empoisonné lorsqu'on respire. Je le dis souvent, aujourd'hui, plus personne en France n'accepterait de boire de l'eau polluée. Or, tous les jours, chaque fois que nous ouvrons à la respiration nos poumons, nous inhalons des substances toxiques qui tuent. Et qui tue dès aujourd'hui, même si j'ai coutume de dire la pollution de l'air, le diesel, c'est le scandale de l'amiante du 21e siècle, c'est aujourd'hui que l'on constate déjà des morts et des personnes qui sont en santé très très fragile et rendues encore plus fragiles. Donc je trouve que c'est très bien qu'on puisse aller devant les tribunaux. Je vous donne un exemple. Nous allons avoir cette semaine au tribunal administratif de Paris l'appel et un recours qui a été fait contre la piétonnisation des voies sur berge, c'est-à-dire la suppression d'une autoroute urbaine qui passait dans le cœur de Paris et qui aujourd'hui est devenue un parc, une espèce de central parc au cœur de Paris, qui est d'ailleurs beau, qui est vraiment qui attire beaucoup de monde et qui permet de faire baisser la pollution.
Vous pouvez perdre ce recours, Anne Hidalgo ?
Comme tout recours, vous pouvez gagner ou vous pouvez perdre. Mais
il paraît que là, c'est quand même très risqué pour
nous.
Pour vous,
alors, pour nous, l'important, c'est de dire que justement, cette mesure que j'ai appliquée, c'est ni plus ni moins ce que font les maires de toutes les communes de France lorsqu'ils décident de piétonniser des zones de leur cœur de ville pour qu'il y ait moins de voitures, moins d'accidents, moins de pollution. Et c'est une réponse directe à l'application des normes européennes. Il y a une directive de 2008 européenne qui n'est pas appliquée en France, qui impose à la France de vraiment faire un plan. Et dans le plan, à l'époque, j'avais travaillé avec Nicolas Hulot, il était encore ministre, et nous avions contribué à la réponse de la France à ce questionnement de Bruxelles, puisque nous n'appliquons pas les normes européennes en matière de qualité de l'air. Et une des mesures, c'est justement ces mesures de piétonnisation des centres-villes, dont celle que nous mettons en œuvre à Paris. Donc bien
si
sûr,
si vous perdez, Anne Hidalgo, qu'est-ce qui va se passer ?
D'abord, on verra, et moi je ne m'avoue jamais battue d'avance. D'abord, je pense que la justice française, et j'ai vraiment confiance en elle, sait que nous sommes en matière de droit environnemental, par exemple, dans un champ de règles, de normes qui doivent aussi prendre en considération les normes internationales et les normes européennes. Ce que je me dis souvent, et avec toutes ces associations, avec nos avocats, notamment Corinne Lepage et Christian Huglot, qui sont les plus grands spécialistes en droit environnemental, on se dit que là, la France a une chance à saisir en considérant que oui, ce droit européen, ce droit de l'environnement nous oblige aussi à ne pas regarder les choses dans un détail qui pourrait effectivement faire que rien ne changera jamais, mais il faut que la France tout entière, toutes ses institutions, que ce soit les collectivités locales, l'État, les ONG, les entreprises, se mettent de façon résolue, déterminée, en mouvement pour que la pollution de l'air baisse dans le pays et qu'on applique ces règles européennes. Et puis la dernière réflexion qu'on a, c'est Paris, la ville, c'est le symbole de l'accord de Paris. On est regardé à l'étranger. Vous savez, cette décision, elle va être très très suivie, notamment à l'international, notamment par les grandes organisations internationales, parce que elle est devenue le symbole de est-ce qu'on peut appliquer l'accord de Paris ? Et j'ajoute, est-ce qu'on peut appliquer l'accord de Paris à Paris ? C'est ça la question qui va être posée cette semaine et la semaine prochaine, puisqu'il y a deux contentieux devant le tribunal administratif.
Au-delà de cette décision, Anne Hidalgo, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de méthode sur la forme, en matière de concertation ? Est-ce que vous n'avez pas été trop radical ? Est-ce que vous n'êtes pas trop radical dans votre politique d'hostilité à la voiture à Paris ?
D'abord, il n'y a pas d'hostilité à la voiture. Vous savez, on a besoin de bouger, on a besoin de mobilité, mais on a changé de monde. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel on sait maintenant que la pollution tue. On sait qu'on peut se déplacer autrement. On sait qu'il va falloir changer de modèle. Je reprends la référence à Nicolas Hulot. Il nous l'a dit, il a laissé un message très fort en quittant son ministère. Il faut changer de modèle. Mon rôle de maire de cette grande ville qui est regardée aussi dans le monde entier, mais qui a d'abord des habitants pour lesquels je dois veiller, et je dois prendre soin d'eux, de leur santé, je dois poser des actes qui soient compatibles, enfin qui aillent vers une meilleure qualité de vie. Eh bien, la maire que je suis, elle sait qu'il faut prendre ces mesures maintenant.
On comprend bien ce que vous avez fait, Anne Hidalgo, mais est-ce que trop, ça n'est pas trop ? Est-ce que toutes ces voitures bloquées dans les embouteillages à Paris, ça n'est finalement pas contre-productif par rapport aux objectifs que vous poursuivez ?
D'abord, vous savez, je pense que vous parlez de radicalité. Vu le changement qu'il y a à opérer, il faut y aller. La question qui est posée, par exemple, qui était posée à mon équipe, qui a été élue sur un projet, un programme, dans lequel d'ailleurs, c'était très clair qu'il y avait ce parc qu'on allait offrir aux Parisiens et cette autoroute urbaine qu'on allait supprimer. Donc tout ça a été validé, décidé, discuté avant 2014. En fait, l'idée, elle arrive en 2001. C'est pas moi qui l'ai eu, l'idée, en 2001. Ce sont les écologistes de mon équipe. En 2008, avec Bertrand Delanoë...
On disait que certains étaient des Khmer verts. Vous vous souvenez de l'expression.
Oui, je me souviens. Et je pense que beaucoup, ce que l'on vit aujourd'hui leur donne raison. Et peut-être que d'autres ont été trop timorés. En 2008, on décide de faire la rive gauche avec Bertrand Delanoë. Et c'est une bagarre inouïe. Il faut attendre l'arrivée de François Hollande et Jean-Marc Ayrault en 2012 au pouvoir pour qu'ils nous autorisent, nous les élus parisiens, à faire quelque chose qu'on avait dans un programme électoral et qui avait été voté par les Parisiens. Et en 2014, je remets ça avec mon équipe, avec cette fois-ci la rive droite de la Seine. Et là encore, ça serait trop long. Vous savez, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas ? Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Bien sûr que lorsqu'on prend des décisions qui sont des décisions qui vont changer la vie de beaucoup de gens, forcément, il y a ou des désagréments ou des choses qui vont compliquer la vie d'un certain nombre de personnes.
Anne Hidalgo, dans votre livre...
Mais le but de cela est quand même ce qui doit faire sens.
Dans votre livre « Respirer » aux éditions de l'Observatoire, il y a quand même deux mea culpa, notamment sur Vélib et sur Autolib. Vous reconnaissez qu'il s'agit de deux ratages.
Sur Vélib d'abord, ça a été une catastrophe, c'est clair.
C'est encore pas terrible, on a fait des tests dans l'équipe des matins ce week-end.
Ça va mieux. ça va mieux. Mais écoutez, ça a été une catastrophe. Et ça, c'est vrai que moi, je pense d'abord à tous ces Parisiens qui avaient décidé de ne plus prendre de voiture ou de ne plus passer par les transports en commun, mais par Vélib. Et c'est tellement agréable de faire du vélo, puis c'est un service public. On le prend à un endroit, on le laisse à un autre. C'est accessible en termes de prix. Donc bien sûr que je pense, et j'ai cette colère encore, parce que ces Parisiens et Parisiennes ont été bloqués, empêchés de prendre ce service auquel nous tenions tant.
C'est parce que vous étiez très hostile à Decaux ?
Mais non, enfin, vous savez, on est dans un pays où il y a des lois. La loi nous imposait de refaire un marché. Voilà.
Moi, mais pourquoi prendre des amateurs, puisque finalement vous avez pris des gens qui manifestement étaient incapables d'assurer le service pour lequel ils avaient été choisis.
D'abord, vous savez, si la loi ne m'avait pas obligée à passer un nouveau marché, je n'aurais pas passé de nouveau marché parce que le service allait très bien. Même si il y avait un changement à faire, à la fois de périmètre, puisqu'on a voulu en faire vraiment un service métropolitain pour toutes les communes autour de Paris. Et la deuxième chose, c'est qu'on a introduit l'électrique. Donc, on a changé aussi de technologie. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la loi, c'est la loi. Et moi, je suis maire de Paris et je respecte la loi. Même si, en l'occurrence, l'entreprise qui a été retenue, pas que par moi, puisque ça a été aussi une décision englobant de très, très nombreuses communes, même si j'en assume une part de responsabilité importante, l'entreprise n'était pas prête. Donc, une fois que nous avons constaté cela avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'amertume, il y a eu des décisions de prise. Du côté de l'entreprise, et je salue l'arrivée de Arnaud Marion, le directeur qui est venu là pour manager cette crise du côté de l'entreprise, moi aussi, de mon côté, j'ai mis en place une gestion de crise. Et nous sommes, je pense, en train de remonter la pente. En tous les cas, même si ça n'est pas parfait, j'en conviens. Moi aussi, je suis utilisatrice de Vélib et il m'est encore arrivé, puisque je suis une usagère, donc je vois moi-même aussi les évolutions du service. Je vois qu'il y a encore quelques problèmes, mais quand même, on en voit beaucoup plus et les vélos sont en train de redevenir ce moyen de transport très apprécié par les Parisiennes.
Autre ratage, Autolib, alors ce n'est pas votre choix, c'est celui du maire précédent, Bertrand Delanoë, mais vous l'assumez,
Anne Hidalgo.
Est-ce que là, choisir Bolloré avec une technologie particulière, ce qu'on appelle des batteries chaudes, c'était pas la promesse d'avoir un ratage à terme, ce qui est intervenu?
Je pense que Autolib, avec les voitures de Bolloré, ont été en fait une grande première. C'est vraiment ce qui a permis de lancer.
Première, mais Gabji également.
Attendez, non, ça a permis d'abord de lancer un service en autopartage électrique. Ça a permis d'équiper la ville. Ça a permis vraiment le lancement de l'autopartage et en voiture électrique. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une dégradation du service, que le service n'a jamais été rentable, il a toujours été déficitaire. Peut-être parce que c'est un service public, peut-être qu'il faut voir les choses un peu différemment et qu'on n'aurait pas dû se dire qu'il serait rentable un jour. Toujours est-il que là, c'est plutôt l'entreprise Bolloré qui a décidé de passer dans une version radicale de les communes payent une somme astronomique ou alors on arrête le service. On a regardé les choses avec mes adjoints, je pense bien sûr à Christophe Najowski, mais aussi Jean-Louis Missica, chargé à mes côtés de l'innovation. Et on s'est dit, on va saisir cette opportunité pour passer à autre chose. Parce qu'en fait, ce qu'on a regardé, c'est d'autres villes, je pense à Madrid notamment, où des systèmes d'autopartage électrique sont en train de se déployer, fonctionnent bien. Et donc, on est en train de mettre en place, d'ici la fin de l'année, avec le salon de l'auto, vous en parliez tout à l'heure, le mondial de l'auto qui s'ouvre à Paris, les constructeurs sont là avec les véhicules électriques et avec une offre d'autopartage, notamment pour Paris, qu'ils vont promouvoir et développer et qui sera un plus pour les Parisiens.
Anne Hidalgo, vous êtes également au cœur d'un débat national sur la gratuité des transports publics. Valérie Pécresse, qui dirige la région, elle, a considéré que c'était une mauvaise idée. Pourquoi vouloir faire la gratuité? On se dit qu'il peut y avoir un effet d'aubaine pour des gens qui ont l'argent de payer les transports en commun et qui du coup vont se retrouver comme des usagers gratuits.
D'abord, moi j'aime bien travailler de façon rationnelle et objective. Il y a un certain nombre de villes, y compris en France, je pense à la ville de Dunkerque, qui est passée à la gratuité, et j'ai vu récemment le maire de Dunkerque qui tirait un bilan très très positif pour sa ville de cette mesure. Moi je n'ai pas tranché, je ne rentre pas dans un sujet sans me renseigner sur le sujet, sans en comprendre les tenants et aboutissants et sans le mettre sur la place publique avec les arguments rationnels. Donc, j'ai demandé à trois de mes adjoints mener une étude sur la gratuité. La question par laquelle moi je leur ai demandé de rentrer, même si bien sûr ils vont examiner d'autres questions, c'est est-ce que la gratuité peut être un attrait pour les transports en commun et permettre de mieux lutter contre la pollution. Voilà, moi ma question elle est là. Comment on fait dans une agglomération dense comme Paris, sa métropole, pour que on donne la possibilité, l'opportunité à ceux qui aujourd'hui utilisent encore une voiture individuelle thermique, c'est-à-dire polluante, comment on fait pour leur donner le goût, les opportunités pour aller vers d'autres modes de déplacement? Et est-ce que la gratuité en est un? Mes équipes sont en train de travailler, et de façon très sérieuse. Des équipes universitaires sont en train de plancher. On a demandé aussi des contributions aux Parisiens. Et j'aurai les éléments d'ici la fin de l'année. À la fin de l'année, il y aura un débat. Il y aura un débat au Conseil de Paris, et fin de l'année ou début d'année prochaine, sur cette question-là. Et chacun pourra se faire une opinion. Moi, je ne rentre pas dans un sujet d'une telle importance, d'une telle complexité. Faut accepter hein, la complexité des choses. Mais on ne rentre pas de façon manichéenne. C'est pas je suis pour, je suis contre, j'aime pas. C'est quand même beaucoup plus important que ça, la question qui nous est posée. Donc je préfère y travailler sérieusement.
Vous avez été victime d'un certain nombre de critiques. Alors chacun décidera si celles-ci sont justifiées ou pas. En tout cas, dans votre livre, vous écrivez « En tant que femme de pouvoir, j'ai dû me construire pour résister aux attaques dont je faisais l'objet. Avez-vous l'impression que le Hidalgo bashing est lié aussi au fait que vous êtes une femme? Est-ce qu'un homme n'aurait pas essuyé les mêmes critiques selon vous, Anne Hidalgo?
Je pense que la vie politique est forcément dure pour tout le monde hein, et que accepter une responsabilité politique, accepter d'être exposé dans un monde où voilà, quand même le débat public est moins un débat que un espace d'affrontements permanents, donc c'est forcément difficile pour tout le monde. Après, vous savez, c'est pas à moi de faire des développements là-dessus, mais je pense que quand même on n'en est pas sorti du plafond de verre pour les femmes. Sinon, elles ne seraient pas exactement dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui en France, y compris sur le plan politique.
Vous dites que être maire de Paris aujourd'hui, c'est être seul. Et votre premier adjoint Bruno Julliard vous a quitté. Décider, c'est être seul. Page 45.
Alors, décider, c'est être seul.
Mais vous êtes de plus en plus seul puisque votre premier adjoint vous a quitté. Bruno
alors, d'abord, décider, c'est assumer la responsabilité qu'on doit prendre soi-même, même si c'est bien sûr après une large concertation. Mais être maire de Paris, c'est mon cas aujourd'hui, c'est être très entourée et notamment.
Vous n'êtes pas isolée?
Ah, pas du tout. Je suis une femme qui travaille avec une équipe extrêmement engagée, motivée. Et puis les Parisiens, vous savez, quand on les sollicite, les Parisiens, ils sont 75 000 à répondre présents sur le climat, 15 000 à dire qu'ils veulent être volontaires sur le climat, 200 000 à répondre sur et à voter pour le budget participatif. Non, je ne me sens pas seule.
La maire de Paris est notre invitée, Anne Hidalgo. Vous publiez Respirez, restez avec nous. Il est 8 heures sur France Culture. Anne Hidalgo, mais tout d'abord une question, Anne Hidalgo. Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous présenter en Espagne? Je ne sais pas, moi, à Cadix. Vous n'êtes pas de Barcelone, vous êtes de Cadix.
D'abord, Paris est vraiment ma ville. C'est la ville dans laquelle j'ai souhaité m'enraciner, même si je suis née à Cadix. Et c'est une une ville extraordinaire. Elle a toujours beaucoup attiré les municipales à Paris. Ça n'existe pas depuis toujours, puisque ce n'est que depuis 1977 que les Parisiens peuvent élire leur maire. Et ça a toujours été la bataille des batailles. Il y a toujours eu pléthore de candidats. Et tant mieux, parce que c'est la plus belle ville du monde. Rachida Dati
Cadix, pas mal aussi. Sur
bien.
Barcelone,
Cadix,
la décision de la
ça,
décision
je vous, de je vous l'accorde. Mais
moi, je trouve que c'est une très belle ville, effectivement,
oui,
Cadix. La décision
vrai.
De Manuel Allez, Valls, visiter. Comment vous l'interprétez?
Écoutez, c'est sa décision personnelle, donc je n'ai pas à la commenter. Je pense que c'est un acte très radical, très fort qu'il pose. Moi-même, je ne ferai pas du tout ce type de choix, mais c'est pour ça que je pense qu'il est très très personnel, ce choix. Ce sera aux habitants de Barcelone de se décider, mais j'ai trouvé vraiment intéressant votre billet sur les maires, parce que d'abord, oui, c'est le plus beau mandat. C'est le plus beau des mandats et je crois que c'est le maire de Caen qui le dit, mais je le vis de la même façon. Être maire, c'est agir tous les jours. Faire des crèches, des jardins, améliorer la qualité de vie, proposer des nouvelles pistes cyclables. C'est agir et c'est, par exemple, dans une ville comme Paris, c'est une action très, très, très locale, très concrète. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et en même temps, qui doit résoudre des grands défi du siècle. Parce que nos villes, je pense notamment aux très grandes villes monde, on est en première ligne de front de cette mondialisation avec l'impact climatique, avec la question des réfugiés, avec la question de la montée des inégalités, avec la question de l'innovation. Il faut attirer l'innovation dans nos villes. Donc c'est un travail qui est passionnant et qui est très à part dans le monde politique. Je pense que des gens qui viennent vers cette fonction de maire en pensant juste au prestige de la fonction se trompe et risque d'être déçu parce que l'exercice, bien sûr que c'est prestigieux d'être maire de Paris, mais l'exercice c'est un exercice très concret. Il faut être vraiment aussi dans la vie quotidienne et un maire ça s'occupe de la vie de ses habitants, de la naissance à la mort. On est là à chaque moment de la vie de nos concitoyens, donc c'est quelque chose de très particulier dans le la vie politique et dans le personnel politique que de dire je veux être maire ou j'aime être maire ou j'ai envie d'être maire d'une ville et a fortiori de Paris bien sûr.
Et comment vous regardez-vous cette différence entre les villes-mondes, les grosses métropoles comme Paris et ces petites communes où les tracasseries font que de plus en plus de maires se découragent?
Vous avez raison, et je travaille par exemple beaucoup, j'ai souhaité vraiment établir un lien très fort avec l'association des maires ruraux de France. On est avec Vanik Berberian qui en est le président, qui est maire d'une toute petite commune. On travaille ensemble. Moi, je les fais rentrer, par exemple, tout le travail qu'on fait à Paris sur le climat, sur l'énergie, sur la ville résiliente. C'est un sujet très important. J'y associe des maires de petites communes sur la question des JO, puisque Paris a gagné les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir des liens directs, faire des liens entre nos écoles, que les petits Parisiens puissent voir ce que c'est que de vivre dans une toute petite commune et l'école de ces petites communes, et inversement, qu'on fasse des classes à Paris. Donc, établir des liens par la population, par le concret. Mais c'est vrai que les maires de toutes petites communes, vous savez, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle le groupe des villes compagnons de la libération, dans lequel il y a aussi Vassieu-en-Vercors, l'Île-de-Saint, qui sont des toutes petites communes. Avec Paris et Vassieu-en-Vercors, on a établi des liens très particuliers. Nous les avons aidés. La ville de Paris les a aidés dans le respect du droit à notamment s'équiper d'un chasse-neige qu'ils n'arrivaient pas à obtenir. Ils n'arrivaient pas à obtenir les autorisations de crédit pour un chasse-neige à Vassieu-en-Vercors. On l'a fait ensemble. Donc bien sûr que je me sens très concernés par ce que les maires des petites communes vivent et c'est très difficile, très très difficile.
Alors ça, ce sont donc les problèmes des petites communes. Le problème des grosses communes, des villes-mondes comme vous les appelez, Anne Hidalgo, c'est on a l'impression finalement qu'il y a un vrai problème de gouvernance puisque dans un certain nombre de vos décisions, vous êtes en contradiction avec la région. On a l'impression qu'à chaque fois, les échelons décisionnaires se renvoient la balle. Vous voulez faire des choses pour l'accueil des migrants, pour les transports, c'est à la région. Et réciproquement, est-ce que vous avez l'impression vraiment que c'était une bonne idée de donner un maire à Paris, en tout cas avec cette structure-là?
C'est quand même... voilà, bien sûr que...
Non, c'est un très beau symbole.
Paris doit doit être une ville gérée démocratiquement parce qu'il y a des habitants qui
vivent.
Entendu. Et d'ailleurs, vous savez.
Mais est-ce que la région, quand même.
Attendez, juste là-dessus, mais quand même, je pense que les Parisiens, moi j'ai vécu ça directement avec Bertrand Delanoë en 2001, ont voulu reprendre la main sur leur vie. Ils veulent décider de leur vie. Les Parisiens ont le droit de dire s'ils veulent être pollués ou pas pollués, s'ils veulent des modes de déplacement différents. Ils doivent pouvoir dire s'ils veulent plus de crèches ou pas. Bref, leur choix de citoyen. Heureusement qu'on reconnaît ça. Mais là où vous avez raison, c'est que il y a des questions de gouvernance qui sont beaucoup plus complexes. Être maire de Paris, c'est tous les jours discuter et négocier avec l'État, président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. On travaille ensemble et d'ailleurs, on a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels on avance très bien ensemble. Discuter avec la région, discuter avec la métropole, avec ses voisins. Moi, j'ai fait des propositions pour simplifier la gouvernance. Je pense qu'il y a un sujet crucial, notamment sur Paris et sa métropole, 7 millions d'habitants quand même. C'est la question des transports. Je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance des transports, c'est-à-dire la façon dont on décide sur les transports et la mobilité, n'est pas la bonne. Elle n'est pas à la bonne échelle. Aujourd'hui, la maire de Paris, le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, avec qui je travaille très bien, qui est le maire de Rueil-Malmaison, qui est...
Ce qui veut dire qu'avec Valérie Pécresse, vous ne travaillez pas très bien.
Si, mais il faut que chacun arrive toujours avec vous. À dépasser. Mais surtout, je pense qu'il faut qu'on ait des outils de gouvernance qui nous obligent à prendre des décisions qui soient des décisions qui accompagnent l'évolution d'un territoire. Et je pense que le sujet majeur, c'est celui des transports et de la mobilité. Parce que à travers ce sujet-là, vous réglez plein de sujets, plein de problèmes. Si les transports sont plus performants, vous réglez les problèmes de mobilité banlieue à banlieue, vous réglez des problèmes de pollution, vous répondez à des questions d'attractivité économique qui sont très importantes.
Justement, Anne Hidalgo, si l'échelon de gouvernance était le bon, si l'échelon de financement était le bon, autrement dit, si vous aviez les mains libres, rêvez un peu pour l'avenir, qu'est-ce que vous pourriez faire ?
Mais ça répond aussi à la question de la disparité territoriale, parce que s'il y a des quartiers qui aujourd'hui souffrent des villes, je pense notamment Sevran dont on parlait tout à l'heure, c'est parce qu'ils ne sont pas bien interconnectés. Donc qu'est-ce que je ferais ? D'abord j'accélérerais, je mettrais le paquet en matière d'investissement pour justement permettre ces transports aussi de banlieue à banlieue, ne pas passer toujours par Paris. C'est la vocation du Grand Paris Express. Mais aujourd'hui, pardon, on est un peu petit bras, voilà. Hein, on est en train de regarder un investissement majeur en se disant comment on fait avec des petits bouts de ficelle un bouclage budgétaire qui en fait va nous faire prendre du retard et qui va nous faire prendre du retard aussi sur le plan d'attractivité économique. Et puis, je mettrai le paquet sur l'innovation. L'innovation, ça doit vraiment, vraiment être la marque de notre métropole. C'est la marque de Paris déjà. C'est là que toutes les entreprises ont envie de venir montrer leurs innovations, notamment en matière de mobilité, et on va le voir avec ce mondial de l'auto. Donc je mettrai le paquet sur le transport fluvial, qu'on puisse se déplacer sur la Seine, bien sûr le fret pour les marchandises, mais aussi pour les particuliers. Or aujourd'hui tout ça est bloqué par des normes ou par le fait que tel ou tel n'a pas envie. Je mettrai le paquet sur les parkings relais. Sur les parkings relais.
Moi, j'ai mis à disposition ceux qui sont mis autour de Paris,
bien sûr,
aux portes de Paris.
Voilà, si j'avais la main, voilà ce que je ferais.
C'est quoi le périmètre de Paris pour vous ? Est-ce que Paris doit... Le Grand Paris, on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. On ne sait pas trop où on en est là. Est-ce que Paris doit absorber les trois départements de la Petite Couronne ?
D'abord, pour moi, le Grand Paris, c'est la réalité de l'exercice de mon mandat quotidien. Depuis que je suis maire, avant j'ai beaucoup travaillé pour construire ce Grand Paris, mais depuis que je suis maire, c'est à cette échelle-là que nous prenons bon nombre de décisions, parce que on a une communauté de destin avec ses 7 millions d'habitants. Absorber, non, je crois que aujourd'hui, bien sûr que toutes les communes, elles ont une identité. Vous savez, il y a des communes pavillonnaires, il y a des communes qui ont chacune une histoire et il faut la respecter. Il faut que Paris respecte cette histoire. On n'est pas là pour les absorber, mais vraiment pour créer cette communauté de destin. Je pense que, par exemple, je vous donne cet exemple. Quand je décide de créer une école du numérique gratuite, l'école Toumo, pour les 12-18 ans, au HAL, au Forum des images, école qui a ouvert la semaine dernière, qu'on va inaugurer officiellement le 16 octobre, et qui va concerner 4000 jeunes de 12 à 18 ans qui vont se former au numérique. D'entrée de jeu, j'ai dit, je souhaite, c'est une initiative de la maire de Paris, mais je souhaite que des enfants d'autres communes de l'Île-de-France puissent y venir. 30% des effectifs de cette école sont des enfants qui viennent des autres communes de l'Île-de-France. Donc moi, j'ai intégré le Grand Paris, y compris dans mes décisions de maire de Paris. Donc, je crois que c'est une réalité. C'est une réalité pour beaucoup de franciliens, pour beaucoup d'habitants de cette métropole, que de se dire, nous vivons à cette grande échelle. Quand je me balade le jour de la journée sans voiture dans Paris, c'était extraordinaire, il y avait du monde partout. J'étais avec le maire du Bourget, Yannick Hope, commune à 14 minutes en RER de Paris par Châtelet-Les-Halles. On était ensemble, on se promenait et les gens me disaient merci encore, on veut vraiment tous les jours comme ça. Et je leur demandais à chaque fois, vous habitez où? Et ils me disaient, je suis parisien. Et d'où? Bah de Clichy, de Saint-Maur, de... Et ben voilà, les gens ils se vivent comme parisiens du Grand Paris.
Un peu de politique, Anne Hidalgo. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est dans un état, comment vous le qualifieriez justement, l'état du Parti Socialiste?
Difficile, hein, il essaye de se redresser. Moi, je suis restée adhérente du Parti Socialiste, j'ai pas le temps.
Faites donc partie de ces 20 000 adhérents à jour de cotisation.
À jour de cotisation, je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Ou alors, si je m'en occupe, c'est en tant que maire de Paris, en faisant le travail qui est le mien. Je garde un attachement à cette famille, je sais qu'elle doit vraiment bouger, évoluer, je l'ai dit souvent, je travaille avec Olivier Faure et avec tous ses responsables. Je pense que, par exemple, la question de l'écologie est une question qui doit être au cœur de la pensée de ce parti. Je reste une social-démocrate et j'ai ajouté l'écologie à ce qui fait le fond de mes convictions.
4,5% d'intention de vote, alors les sondages peuvent se tromper, mais on a la sensation malgré tout que le Parti Socialiste est dans un état de faiblesse. Comment vous analysez les choses,
Anne Hidalgo ? Il faut du temps, il faut beaucoup de temps.
Du temps après quoi ?
Et ben après, il faut retrouver la confiance après une élection où le président de la République n'a pas été en mesure de pouvoir se représenter.
C'était injuste. Est-ce que la manière dont cela s'est soldé, dont le quinquennat de François Hollande s'est soldé, est-ce qu'il a été jugé trop sévèrement selon vous ? Par les Français.
Je pense que l'histoire le dira, mais oui,
mais vous, sûrement qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a sûrement eu beaucoup d'injustices, mais je dirais, ce n'est pas, peu importe cette question-là maintenant. Je pense que il faut que chacun revienne à ce qui fait sa conviction, les valeurs qu'on porte. Il ne faut pas être sectaire, il faut être très ouvert. On va vers quelque chose qui doit être beaucoup plus souple. Quand on discute avec des plus jeunes sur la nature de leur engagement, ils ont envie de s'engager sur des causes aussi concrètes. Donc ce n'est pas l'engagement qui est en cause dans notre société, mais peut-être ce monde politique, cette vie politique dans laquelle on peut donner l'impression aux concitoyens que il y a ce qu'on dit, après il y a ce qu'on fait, une question de confiance qui se rompt mais l'exercice du pouvoir est quelque chose de très difficile, qui nécessite en permanence du dialogue, mais aussi qui nécessite de garder un cap. Je pense qu'il faut une réflexion sur notre démocratie. Notre démocratie a besoin de pluralisme des idées, a besoin de corps intermédiaires, a besoin de s'appuyer sur toutes les forces de la société pour pouvoir relever les défis qui sont des défis très très complexe, très très dur que nous avons à relever. Et peut-être que ce qui s'est passé, notamment pour le Parti Socialiste, qui l'a laissé à terre, disons les choses telles qu'elles sont, peut être aussi, moi je suis une incorrigible optimiste, hein, donc je me dis, tant qu'on est là avec une capacité à penser et à agir, il y a de l'espoir et peut-être qu'on sortira meilleur de cette période qui a été quand même extrêmement difficile et qui a rompu de la confiance avec nos concitoyens.
Stéphane Robert. Comment vous expliquez-vous cette atomisation qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'on voit 20 000 adhérents à jour de cotisation, on voit qu'il y a une partie du parti qui menace de partir. Marie-Louise Nilman et Emmanuel Morel s'apprêtent, dans la perspective des européennes, à quitter le Parti Socialiste pour rejoindre éventuellement Jean-Luc Mélenchon. On voit Luc Carvounas qui crée son courant, la gauche arc-en-ciel. Comment vous expliquez-vous cette atomisation et comment on arrête ça? Parce que
peut-être que c'est un mal nécessaire. Voilà, je ne veux pas poser à cet endroit-là quelque chose de dramatique. C'est peut-être un mal nécessaire. Il faut peut-être en passer par là pour mieux retrouver les raisons d'un engagement qui, dans une formation politique, qui doit elle-même vraiment revoir un certain nombre de ses fondamentaux. Je suis profondément social-démocrate. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie humaine sans recherche de justice sociale. Et je pense que la justice sociale, c'est aussi un élément très très important pour l'innovation et qu'il n'y a pas de réussite économique sans qu'il y ait du partage de cette réussite. Mais je pense que ce qui doit vraiment tirer aujourd'hui notre réflexion et notre pensée politique et bien sûr nos actions, c'est la question de l'écologie. Je pense que c'est la question majeure aujourd'hui.
Même si ça ne paye pas, parce que semble-t-il, ça a du mal à payer, on a du mal à faire de la politique au futur, on voit même que vos actions en ce sens dans la ville de Paris sont plutôt les plus controversées, je pense à la voiture. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est une possibilité de faire une politique écologique qui soit populaire?
D'abord, n'ayez aucun jugement définitif à partir, je dirais, d'impressions ou de commentaires. Je pense que l'écologie est vraiment le sujet sur lequel nous devons tous nous concentrer et qu'il offre des opportunités extraordinaires. Des opportunités d'abord parce que si on ne le fait pas, la question de la survie de la vie sur la planète est quand même posée par aussi les scientifiques qui confirment cette thèse-là. Donc oui, il faut qu'on se préoccupe de la planète parce que la planète n'a pas des ressources infinies et que nous ne pouvons pas occuper la planète comme des prédateurs sans nous soucier de demain. Donc il faut faire cet effort-là. La question n'est pas est-ce que ça paye ou est-ce que ça paye pas. De toute façon, je peux vous dire une chose. Ne pas se préoccuper de la planète et agir en prédateur, ça paye pas, hein. Et vous verrez comment ça va pas payer. Donc il vaut mieux s'occuper de la planète. Et les opportunités qu'offre justement ce positionnement des questions d'écologie au cœur de tout, ce sont de nouvelles opportunités économiques, moins prédatrices, beaucoup plus soutenables. Ce sont de nouvelles opportunités d'emploi. Les questions, vous savez, du réemploi, des énergies renouvelables, du recyclable, sont en train d'ouvrir un champ, y compris d'économie sociale et solidaire, mais pas que extraordinaire, avec des opportunités pour beaucoup de personnes et pour nos villes. Donc, bien sûr qu'il faut reprendre cette question-là au cœur de nos réflexions. Et je vous assure que ça paye. La question, c'est le court, le moyen et le long terme. Aucun d'entre nous ne se situe exclusivement sur le court terme. On pense tous à l'avenir, on pense tous à nos enfants, on pense tous à ce qui va se passer dans les années qui viennent, et heureusement, sinon nous ne serions pas humains.
Les écologistes du Conseil de Paris, ils n'ont pas cette vision. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à les convaincre, et pourquoi est-ce qu'ils menacent de vous quitter?
D'abord, ils ne menacent pas du tout de me quitter, et ce n'est pas
du tout une menace. Ils veulent présenter une liste autonome.
On verra en 2020 comment les choses s'organisent. Il est clair que 2020, il y aura une proposition qui sera totalement fondée sur l'écologie et dans laquelle je m'inscrirai vraisemblablement.
Et le bilan d'Emmanuel Macron, on a parlé de l'état de la gauche, l'état de la majorité présidentielle. Comment jugez-vous Emmanuel Macron après un peu plus de 500 jours de présence à l'Élysée.
Moi, je n'ai pas à juger la personne. D'ailleurs, je pense que si, y compris dans les commentaires, on s'intéressait plus au fond et moins aux personnes, on ferait tous œuvre utile pour notre démocratie. Moi, je suis social-démocrate, écologiste.
Il est aussi social-démocrate, Emmanuel Macron ?
Il est écologiste, en tout cas, il n'arrête pas de le répéter.
C'est à lui de se définir, ce n'est pas à moi de le définir. Il y a des aspects de sa politique sur lesquels je suis d'accord et on avance ensemble. Et puis d'autres sur lesquelles je pense que il faudrait être plus équilibré.
Lesquelles,
plus...
par exemple ?
Je pense que la question sociale est quand même une question assez absente.
Et est-ce que vous pensez qu'elle était plus présente sous François Hollande, Anne Hidalgo ?
Je ne sais pas, vous savez, comme ça, le matin, je pense que le fond des convictions de François Hollande, qui a gouverné comme président des Français, mais venant du Parti Socialiste, au Parti Socialiste, il y a une affirmation social-démocrate plus grande, et bien sûr, une affirmation sociale plus importante.
Anne Hidalgo, comment expliquez-vous cette situation politique assez inédite? On a un président dont l'action est, disons, controversée, et une gauche qui est largement atomisée, la France insoumise est l'élément qui prédomine le plus, mais on a quand même l'impression qu'en dehors de cela, il y a une sorte de vide idéologique, une situation inédite. Quelle analyse pourriez-vous faire de cette situation si vous en partagez les prémices?
Je pense qu'on a une habitude qui consiste à poser le débat public de façon manichéenne. On est pour, on est contre, c'est bien, c'est pas bien, et entre les deux, il y aurait rien. En fait, la vie, c'est pas du tout ça. Même la vie des idées, la vie du monde de la pensée n'est pas du tout celle-là. On est dans une société complexe. Personne n'a la solution à proprement parler. Nous sommes dans un monde avec des interactions, des interdépendances. L'international était... dans votre journal, oui, il est présent et ça fait du bien.
Puisque vous êtes sur France Culture.
Sur France Culture, d'entendre parler de l'international. Mais quand vous ouvrez bon nombre de médias français, l'international n'est même pas présent, alors qu'on est quand même dans des interdépendances. Donc je crois qu'il faut sans doute qu'il y ait un sursaut. Vous savez, il y a des fragilités dans notre démocratie. C'est pas quelque chose qui est acquis. Et peut-être que ça passe par un débat public dans lequel on accepte plus la complexité.
Anne Hidalgo, vous restez avec nous. Vous publiez Respirer aux éditions de l'Observatoire.